Animalis, l'expert du bien-être et de la santé de vos animaux depuis 20 ans présente. Animalis, le magasin des animaux à vivre et à aimer. Retrouvez-nous aussi sur animalis.com. Animalis présente.
Sud Radio, vos animaux, Natacha Harry.
Bonjour à tous, bienvenue dans Vos Animaux. Merci à vous d'écouter Sud Radio en ce samedi matin. Alors, au programme cette semaine, on va encore vous parler du coronavirus. Mais cette fois, on va essayer de vous en parler par rapport à son lien avec les animaux. Que sait-on aujourd'hui de son origine animale ? Nos animaux de compagnie sont-ils exposés ? Faut-il les protéger ? Peuvent-ils nous transmettre le virus ? C'est le professeur honoraire de l'École nationale vétérinaire de Maisons-Alfort, Jeanne Brugère-Picou, qui répondra à mes questions et à vos questions aussi. Côté faune sauvage, un sujet plus léger, oui, parce qu'on va quand même pas faire toute l'émission sur le coronavirus, pardon, rassurez-vous. On vous parlera d'un drôle de chat, le chat sauvage. Enfin, dans C'est votre histoire, focus ce matin sur les adoptions d'animaux. Vous souhaitez adopter un animal ? Comment faire ? À qui vous adresser ? Nous vous donnerons de bons conseils à l'occasion du week-end adoption organisé par notre partenaire Animalis. Merci à vous d'écouter Vos Animaux, 0826 300 300. Vous le savez, on vous attend au standard de Sud Radio. Mais tout de suite, c'est l'heure du journal de Gaspard, le journal des animaux.
Sud Radio, Vos Animaux, Natacha Harry.
Alors Gaspard, vous nous emmenez à Strasbourg qui est touché par une arnaque qui concerne les chiots. Mais quoi cette histoire ?
La police nationale du Bas-Rhin alerte en effet sur une escroquerie qui sévit sur le net et dont plusieurs personnes ont fait les frais. Le principe est simple et donc redoutable. La petite annonce propose des chiots de race gratuitement en prétendant par exemple en avoir plusieurs et ne pas pouvoir s'en occuper. Objectif du malfaiteur, mettre en confiance sa future victime. Seule contrepartie pour obtenir l'animal, payer des frais de transport à l'aide d'une carte prépayée. Ah. Alors, vous le voyez venir, le problème, le chiot n'arrive jamais. Pour gagner encore plus d'argent, l'arnaqueur demande des frais de vétérinaire, de douane, au final.
Et tout ça, c'est sur quel média ?
Sur Internet, sur le web.
D'accord.
Au final, il fait dépenser beaucoup d'argent à sa victime alors qu'il ne verra évidemment jamais l'animal. La police attire donc votre attention sur les annonces trop belles et où il vous est demandé de payer avec une carte prépayée.
De toute façon, franchement, on n'achète pas un chiot sur Internet. C'est pas possible. Sur le Bon Coin, tout ça. Évitez tout ça. Adressez-vous soit à des associations, soit à des professionnels, des éleveurs sérieux qui ont pignon sur rue. Ça évite d'abord les arnaques financières. Et puis ça évite aussi d'avoir affaire à des animaux qui font souvent l'objet de trafic. Voilà, ça c'est dit. Allez, on part maintenant du côté de Trouville, sur la Côte Fleurie, où une spécialiste de zoothérapie se déplace tous les jours avec ses animaux pour prodiguer de la joie. Mais quelle belle idée !
Emmanuel Chalot, spécialiste en zoothérapie, se déplace dans une grande partie de la Normandie avec ses animaux afin de prodiguer des bienfaits aux personnes âgées, handicapées ou déficientes intellectuelles. Tous les jours, elle emmène donc ses lapins, un cochon d'Inde, poule et son chien pour faire de la médiation animale. Elle a créé l'association Animez-vous en février 2014. Après 5 ans d'existence, elle croule sous les demandes puisque ce sont plus d'une trentaine d'établissements d'EHPAD mais aussi d'instituts médico-éducatifs qu'elle visite chaque jour. Possédant une vingtaine d'animaux dans sa ferme, elle alterne entre ces différentes espèces.
Elle alterne personne, rassurez-moi.
Au cours de la journée pour ne pas trop les fatiguer. Non, Natacha, des animaux qui apporte joie, calme et réconfort pour ces personnes fragilisées.
C'est vrai que c'est vraiment une super idée d'amener des animaux dans les EHPAD. Ça fait beaucoup de bien aux personnes qui y sont. Allez, on termine ce journal avec une bonne nouvelle qui nous vient de Moselle.
3 tigres blancs sont nés au zoo d'Amnéville. Ils ont pointé le bout de leur nez le 5 janvier dernier après avoir été portés pendant 110 jours par leur mère, Orissa, née au zoo de Beauval et arrivée à Amnéville en 2007. Les nouveaux-nés sont 2 petits mâles baptisés Aran et Youn et une femelle baptisée Fouillou. Les 3 se portent bien et sont nourris par leur maman sous la supervision des vétérinaires. Ils ne seront mis en présence de leur père qu'après leur sevrage à l'âge de 2-3 mois. Et bonne nouvelle, vous pourrez les voir dans quelques jours au zoo d'Amnéville qui se trouve donc en Moselle.
Merci infiniment Gaspard pour ce journal des animaux. Tout de suite, vos animaux et vous.
Sud Radio, vos animaux et vous.
Alors, je sais que beaucoup d'entre vous se posent énormément de questions sur ce fameux coronavirus, le Covid-19. Des questions aussi relatives aux animaux. On va essayer ce matin de vous éclairer, de vous rassurer, de répondre à l'ensemble de ces interrogations. Et pour le faire, je fais appel à une spécialiste, le professeur honoraire de l'École nationale vétérinaire de Maisons-Alfort, Jeanne Brugère-Picou. Bonjour Jeanne.
Bonjour Natacha.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. D'abord, à quoi ressemble ce Covid-19? Est-ce qu'il a des liens de ressemblance avec des virus que l'on a pu connaître par le passé? Je pense par exemple au SRAS qui avait été une épidémie quand même assez marquante en 2002-2003.
Oui, il est assez proche du SRAS, mais assez éloigné pour que ce ne soit pas exact, c'est pas la même maladie. Par contre, il faut savoir qu'il y a plusieurs coronavirus, et le premier qu'on ait connu, c'est le virus de la bronchite infectieuse aviaire qui n'a jamais été transmis à l'homme. Donc vous voyez qu'il y a des virus qui peuvent passer chez l'homme, d'autres pas du tout.
On trouve souvent les animaux à l'origine de ces transmissions aux humains. C'est ce qu'on appelle les zoonoses, hein, des maladies qui se transmettent des animaux aux hommes. Dans le cas de ce coronavirus, est-ce que l'origine animale de cette épidémie est aujourd'hui certaine ?
Oui, l'origine est certaine, c'est la chauve-souris. Pour tous d'ailleurs ces animaux, l'ancêtre des coronavirus, ce sont des chauves-souris. Il y a un moment où ça s'est un petit peu scindé parce qu'il y a eu des virus aviaires pour les oiseaux, mais de l'autre côté, la chauve-souris est à l'origine des principaux coronavirus qu'on trouve chez les mammifères.
Et on parle aussi beaucoup du pangolin. Que sait-on justement du risque de voir ce pangolin à l'origine de cette transmission? Parce que finalement, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une vraie enquête épidémiologique qui est lancée. Beaucoup de pistes sont étudiées.
Oui, alors pour le SRAS, par exemple, on avait trouvé la civette, qui est un félidé, qui était l'hôte intermédiaire entre la chauve-souris et l'homme, et d'ailleurs pas toujours. Et là, on a cherché l'autre intermédiaire qui pouvait peut-être être à l'origine de ce Covid-19. En fait, on a trouvé le pangolin, mais par des analyses assez ambiguës, qui fait qu'on n'est pas certain du tout que ce soit le pangolin. Il faudrait avoir d'autres certifications pour en être sûr. Par contre, le pangolin, c'est un animal qui est en voie d'extinction, oui. Mais les Chinois adorent sa chair et surtout ses écailles qui ont des vertus qui donnent un peu mieux de libido. Alors voilà.
Enfin, donc, ça, c'est dans les croyances, parce que la réalité des écailles, Jeanne Brugère-Picou, ce ne sont que de la kératine, on est bien d'accord.
Tout à fait, mais ça c'est le problème des thérapies chinoises basées sur des croyances.
C'est vrai avec la corne de rhinocéros et avec d'autres oui. Animaux comme ça auxquels on prête des vertus médicinales qui n'ont jamais été très clairement démontrées, évidemment. Alors sur ce marché de Wuhan, d'où est parti ce foyer infectieux, il y avait une prolifération absolument incroyable d'espèces animales qui sont vendues sur ces marchés. Sur ce marché en particulier, mais c'est vrai aussi sur beaucoup de marchés en Chine, des animaux vivants, des animaux sauvages capturés en milieu naturel sans aucun contrôle et souvent dans l'illégalité d'ailleurs.
Tout à fait, c'était illégal parce que depuis le SRAS, on savait que ces marchés d'animaux vivants sauvages pouvaient apporter des coronavirus en étant des hôtes intermédiaires entre la chauve-souris et l'homme, mais finalement, la leçon n'a pas été suivie puisque malgré l'interdiction, on continuait à vendre ces animaux sauvages, mais aussi il y avait des fermes de civettes par exemple. Donc il faut se rendre compte que on pouvait trouver de toutes les espèces d'animaux dans ces marchés d'animaux sauvages, alors que finalement les fruits de mer n'avaient rien à voir avec cette affaire.
Oui, vous parlez de fruits de mer parce qu'en fait ce marché à Wuhan était le marché des fruits de mer, mais au milieu des fruits de mer on trouvait bien sûr beaucoup, beaucoup d'autres choses, des animaux détenus d'ailleurs dans des conditions absolument atroces. Là aussi, le stress que l'on inflige à ces animaux dans ces conditions-là est-il vraiment un facteur de libération des virus dont ils sont porteurs ?
Alors, le stress, il faut avoir visité un marché chinois. J'en ai visité, et ce qu'il y a surtout de stressant, c'est que les Chinois veulent un animal vivant. Ils l'achètent vivant, et on le tue devant eux. Alors, c'est assez dramatique, selon te voir, et parce qu'ils considèrent que l'animal, la viande fraîche, est meilleure. Donc, vous imaginez le stress pour l'animal, et surtout, la possibilité de contamination virale, puisque l'animal est vendu vivant.
Et justement, dans le cas par exemple du SRAS, alors là on parle d'une autre épidémie, hein, le SRAS c'était en 2002-2003, la civette était pointée du doigt et visiblement la contamination de départ, le passage de l'animal à l'homme se faisait sur les personnes qui découpaient ces civettes. Et ensuite la transmission aux humains s'est fait vraiment d'humain en humain, mais c'est pas les consommateurs de civettes qui se sont contaminés par la civette, c'est vraiment les personnes qui découpaient.
C'était les personnes qui découpaient et les serveurs de restaurants qui passaient à côté, en fait, des cages où il y avait des civettes.
Qu'est-ce que... on va partir au standard, puisque on a Pierre, on me fait signe, pardon,
oui,
j'avais oublié.
Pierre a composé le 0826-300-300. Bonjour Pierre.
Bonjour Pierre, nous vous écoutons.
Oui, bonjour. Bonjour vos auditeurs. Justement, je m'inquiétais... que depuis le début de cette malheureuse histoire, il y a très peu de consignes données sur les animaux de compagnie. Et j'ai même eu à lire que, en fait, il n'y avait aucun risque. Alors, ce qui me surprend quand même, puisque ça vient d'être assez bien expliqué, c'est quand même l'animal qui a été pointé du doigt pour l'origine du virus. Donc, je ne vois pas comment nos animaux, à moins que les obligations de vaccination les protègent, mais je ne vois pas comment nos animaux pourraient être tirés un peu de la problématique, quoi.
Alors justement, professeur Jeanne Brugère-Picou, vous êtes une référente en la matière, professeur honoraire à l'École nationale vétérinaire de Maisons-Alfort. Qu'est-ce que l'on peut craindre du potentiel passage de ce Covid-19, de ce coronavirus aux animaux de compagnie? On sait qu'il y a par exemple un chien qui avait été détecté il y a quelques jours positif à Hong Kong. Alors il faut quand même préciser que ce chien habitait avec sa propriétaire qui elle-même était positive et était en quarantaine, enfin en quatorzaine.
Tout à fait. Et ce chien est sous surveillance. Alors tout d'abord, on a montré qu'il y avait très peu de virus chez ce chien, ce qui montre qu'il a certainement été contaminé par sa propriétaire et peut-être que le passage de virus est transitoire, c'est-à-dire sans qu'il y ait une forte multiplication virale pouvant présenter un risque pour d'autres personnes. Et d'ailleurs, les derniers résultats, parce que il y a eu des résultats qui ont été fournis hier, eh bien, il est toujours faiblement infecté, ce qui montre bien qu'il ne présente pas un risque.
D'ailleurs, ça veut dire que finalement, comme l'environnement de sa maîtresse était contaminé par cette femme, le chien a récupéré ce virus, mais si on est dans l'environnement d'une personne contaminée, forcément, on va trouver du virus un peu partout, j'imagine, Jeanne.
Tout à fait. Alors, il faut penser qu'on n'a jamais montré qu'un chien ou un chat pouvait transmettre le virus à une personne, un chien de compagnie ou un chat de compagnie, bien qu'on sache qu'il puisse être sensible avec le SRAS, on le savait. Mais une chose est certaine, c'est qu'on n'a jamais démontré une contamination humaine à partir d'un animal de compagnie avec le SRAS. Donc le chien de Hong Kong semble confirmer que le risque est extrêmement faible et même peut-être exclu. Donc il faut être rassurant. Par contre, quand on caresse son chien ou son chat, il faut se laver les mains.
Pourquoi justement il faut se laver les mains si vous nous expliquez qu'il ne représente aucun risque ?
C'est une mesure de précaution parce que de toute façon, il y a d'autres bactéries ou virus qui peuvent se retrouver sur le poil, et même des parasites qui peuvent se retrouver sur les poils du chien ou du chat. Et c'est une mesure de précaution pour l'hygiène qui doit être systématique.
Merci Pierre d'avoir contacté le 0826-300-300.
Monica a aussi composé le numéro de Sud Radio. Bonjour Monica.
Bonjour, bonjour Monica, beaucoup de questions ce matin au standard de Sud Radio. Mais quelle voix en jouer de bon matin. D'où nous appelez-vous Monica?
Moi je vous appelle du Sud-Ouest, à 20 km d'Albi.
Très bien, vous aviez donc une question, ce coronavirus vous inquiète-t-il?
Oui, il m'inquiète et je pensais à une chose, parce que je réfléchis beaucoup, notamment bon, cette personne qui a attrapé le coronavirus et qui habite dans un petit village où il n'a pas eu de fréquentation particulière avec des
personnes. Vous parliez du patient français, hein.
Voilà, oui. Des personnes revenant de Chine ou d'Italie. Et alors moi, je me demandais si, ça fait tilt dans ma tête, je me demandais si ça provenait pas de la nourriture.
Ah, docteur Jeanne Brugère-Picou, professeur, pardon.
La nourriture, parce que, dans certaines croquettes, enfin pas dans celles que j'achète personnellement, parce qu'il n'y en a pas, mais dans certaines croquettes, par exemple, il y a des sous-produits, c'est marqué sous-produits animaux. Donc d'où viennent ces sous-produits d'animaux, on ne sait pas, puis c'est ce qu'il y a de plus ragoûtant, j'irais, dans la chaîne des produits animaliers. Et puis, ou alors ces friandises que je donnais à mes chiens. Moi, j'ai 5 chiens. Et je leur donnais ces friandises qu'ils adorent. Et vous savez, c'est bâtonné de couleurs.
Oui, tout à fait.
Et j'ai regardé comment la composition. En effet, et puis on me l'a signalé aussi sur Facebook, parce que je suis beaucoup sur Facebook dans la protection animale. Et en effet, j'ai vu que ça provenait de Chine. Et c'était avec...
Vous avez peur finalement que dans la composition de certains aliments pour animaux, des aliments qui pourraient être produits en Chine ou composés d'éléments produits en Chine, on arrive à transmettre ce virus aux animaux.
Exactement.
Alors on va demander l'avis du professeur Jeanne Brugère-Picou. Qu'est-ce qu'on peut répondre à Monica, Jeanne ? Sujet complexe, hein.
Aucun risque avec la nourriture, parce que ce virus est très peu résistant dans le milieu extérieur. Et c'est un virus.
Est-ce qu'on sait d'ailleurs combien de temps il vit dans le milieu extérieur?
Je ne peux pas vous donner de chiffres exacts, mais je sais que c'est parce que tout dépend en fait de l'environnement. Un virus, par exemple, dans un environnement très froid, même glacé, sera plus résistant, parce qu'on conserve les virus dans l'azote liquide.
D'accord.
Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de variations.
Alors quand on dit que le froid tue les virus, c'est faux, par exemple.
Ah, c'est faux, c'est la chaleur qui les tue.
Ah oui.
C'est la chaleur. Ça, c'est intéressant, parce que c'est vraiment une croyance assez communément répandue.
Alors, pourtant, c'est une grosse grippe et on pense qu'avec la chaleur, justement, ça va être comme la grippe saisonnière.
Ça va partir quand le beau temps va arriver.
C'est ce qu'on espère, comme une grosse grippe.
Alors, qu'est-ce qu'on peut répondre à Monica, justement, sur le risque de transmission alimentaire? Donc, pour vous, il n'y a pas de risque?
Aucun risque. Alors là, c'est certain, parce que c'est un virus respiratoire et il faut justement être en contact à moins d'un mètre d'une personne porteur du virus pour qu'il y ait, en fait, par les postillons, une contamination directe.
Monica, êtes-vous rassurée?
Oui. Non, je reste sceptique, voyez-vous.
Mais vous avez tort d'être sceptique.
Pourtant, c'est une spécialiste des maladies animales qui vous donne ses explications.
Même pour les hommes, je reste sceptique parce que, moi, j'ai beaucoup voyagé. Je suis allée dans des pays asiatiques, mais pas en Chine, mais dans d'autres pays asiatiques. Bon, point de vue hygiène, c'était pas d'une hygiène rigoureuse, je dirais. Et j'avais du mal à me nourrir.
Je vous confirme que pour être également allée en Chine, c'est vrai qu'on s'interroge sur ce qu'on a dans son assiette.
Et voilà. Selon l'assiette et la façon dont c'est fait, parce que l'eau, d'où provient l'eau qui nettoie tout, qui...
Alors, une petite aparté, Jeanne Brugère-Picou. Pouvez-vous expliquer à nos auditeurs comment sont contrôlés les aliments qui rentrent, enfin les éléments qui rentrent dans la composition des aliments pour animaux?
Voilà.
Ah ben là, il y a toute une société qui s'appelle la FACO qui régit cette affaire-là. Et tous les aliments pour animaux ont même des contrôles qui sont équivalents aux contrôles qu'on a pour l'alimentation humaine, parce que on considère que des personnes qui ont peu d'argent peuvent parfois manger des pâtés pour chien. Ça, c'était au début avec ce qu'on appelait le ronron à l'époque. Donc, il faut vous rendre compte qu'il y a vraiment des contrôles aussi stricts pour l'alimentation animale que pour l'alimentation humaine.
Et vous qui avez été, Jeanne Brugère-Picou, très au fait de la crise de la vache folle, ça a été un moment clé aussi, j'imagine, dans le contrôle que l'on a mis dans la production des aliments pour animaux.
Je n'oserais même pas dire que, mais pourtant c'est vrai, les gens qui s'occupaient de l'alimentation animale se sont plus préoccupés rapidement des aliments pour animaux avant que s'intéressent à l'aliment pour l'homme.
Mmh. Bon, j'espère, Monica, que vous êtes quand même un tout petit peu rassurée. Vous avez eu des explications par une grande spécialiste de ce sujet.
Oui.
Merci, merci à vous en tout cas d'avoir composé le 0826 300 300. Beaucoup de questions aujourd'hui au standard de Sud Radio. Vous qui écoutez vos animaux, on repart donc au standard avec Anne-France. Bonjour Anne-France.
Allô, bonjour. Écoutez, donc j'ai deux chats à la maison.
Oui.
Et bon, j'aurais aimé savoir comment on faisait le diagnostic de la maladie, si les animaux sont infectés ou quoi, ça se présente comment ?
Alors, Jeanne Brugère-Picou, le chien par exemple de Hong Kong, comment a-t-il été diagnostiqué ?
Parce qu'ils ont recherché, parce que le chien n'est pas malade. Le chat n'est pas très malade non plus quand il y a eu avec le SRAS, quand ils ont essayé de reproduire la maladie. Donc il faut vous rendre compte que ce sont des animaux qui peuvent être réservoirs, mais asymptomatiques.
Et on fait quoi ? Un prélèvement, un écouvillonnage, par exemple, de la gorge ou des fosses nasales, en fait. C'est comme ça que ça se passe, comme chez les humains, c'est la même chose.
Tout à fait, mais ça coûte trop cher pour le faire pour des animaux de compagnie, parce que ce n'est pas justifié.
Ce n'est pas justifié, et les animaux de compagnie, vous m'arrêtez si je dis des bêtises, mais si j'ai bien compris vos explications, ne sont a priori pas porteurs de ce virus, sauf s'ils habitent avec une personne qui elle-même est porteuse. Et en tout cas, il n'y a pas de risque de transmission de nos chiens et de nos chats à nous, êtres humains.
Oui, on n'a jamais démontré un risque de transmission de l'animal de compagnie vers l'homme avec ces coronavirus qui sont effectivement assez dangereux pour surtout les vieilles personnes. N'oubliez pas, c'est comme la grippe, hein. Ce sont des personnes très âgées qui meurent, hein, parce qu'elles ne sont pas vaccinées contre ce coronavirus.
Pourquoi a-t-on aussi peur d'ailleurs de ce coronavirus aujourd'hui s'il n'est pas plus dangereux que la grippe, hein ?
Eh bien, c'est la question qu'on peut se poser. Parce que la grippe tue beaucoup ? Oui. C'est la question qu'on peut se poser parce que c'est une grosse grippe. Mais là, on n'a pas cette protection par la vaccination que l'on a connue pour les personnes âgées. Donc, ce sont des personnes âgées qui ont 15% de mortalité. Mais les jeunes, on a des formes souvent asymptomatiques, ce qui explique qu'on souhaite maintenant que les très jeunes enfants n'aillent pas voir leurs grands-parents parce que si le virus circule.
Eh bien, merci infiniment, professeur Jeanne Brugère-Picou, pour toutes ces explications. J'espère que vous avez réussi à rassurer nos auditeurs. N'ayez pas peur de vos chiens, de vos chats. N'ayez pas peur de croiser un chien dans la rue. Le coronavirus ne va pas vous sauter dessus. Allez, on marque une courte pause et on se retrouve juste après. On change totalement de sujet. On va parler de faune sauvage et notamment du chat sauvage.
Animalis, l'expert du bien-être et de la santé de vos animaux depuis 20 ans présente.
Sud Radio, vos animaux, Natacha Harry.
Merci à vous d'écouter vos animaux. Merci d'être là sur Sud Radio, fidèle comme chaque samedi matin. Alors au programme dans notre séquence à l'état sauvage, nous allons vous parler d'un animal aussi discret que magnifique, le chat sauvage. Et puis si vous avez envie d'adopter un animal, on vous conseillera l'occasion de vous parler aussi du week-end adoption organisé par notre partenaire Animalis.
Mais pour l'heure, les questions véto qui vous sont posées, Natacha.
Sud Radio, vos animaux. Question veto.
Et ce matin, c'est Marielle qui va vous interpeller. Bonjour Marielle.
Bonjour. Bonjour Natacha Harry, bonjour monsieur.
Bonjour Marielle. Monsieur s'appelle Gaspard, ma chère Marielle. Je vous écoute, Marielle.
Donc, merci de m'accueillir et déjà merci infiniment pour votre bienveillance envers tous les animaux de la faune et de la flore.
Eh bien, écoutez, c'est une passion partagée par beaucoup d'entre nous et par tous les fidèles auditeurs de vos animaux tous les samedis matins. Que puis-je faire pour vous ? Dites-moi.
Donc, en ce qui me concerne, voilà le problème récurrent. Les vermifuges ingérés par ma petite chienne Maya.
Oui.
Et achetés chez le vétérinaire, de même qu'en pharmacie, se sont avérés inefficaces. Cela la rend très nerveuse. De plus, elle se ronge régulièrement le bout des pattes. Voilà.
Alors, pourquoi vous faites un lien entre le fait qu'elle se ronge les bouts des pattes et qu'elle soit nerveuse avec les vermifuges ?
Non, il n'y a pas de lien, je ne pense pas. Mais voilà, c'est deux choses différentes. Je suis perdue.
Bon, alors écoutez, pour ce qui concerne les vermifuges, je ne sais pas quel produit vous achetez, et vous savez, on n'a pas le droit de faire de publicité aux marques, donc on ne va pas citer les médicaments, les vermifuges. En tout cas, sachez une chose, ma chère Marielle, c'est que vermifuger son chien régulièrement est absolument indispensable. parce que ça le protège de ce parasitisme interne, et d'ailleurs il faut aussi penser aux parasites externes, mais ça c'est un autre sujet, ça le protège de ces parasites internes et ça protège aussi les personnes qui vivent dans son environnement d'une transmission de ces parasites aux êtres humains. Peut-être avez-vous des enfants, des petits-enfants qui sont aussi en contact avec votre chienne Maya, et donc voilà, c'est important de les utiliser. Maintenant, j'ai pas bien compris quel était le problème avec les vermifuges que vous utilisez, mais si vous avez le sentiment qu'ils sont inefficaces, il faut peut-être en discuter avec votre vétérinaire qui va essayer...
Pardon de vous interrompre, oui. Donc j'en ai parlé à mon vétérinaire et il était étonné, il n'a pas répondu. J'ai pensé que ces vermifuges provenaient peut-être de l'étranger, ils étaient peut-être moins efficaces que... il n'a pas répondu, je lui ai dit que j'avais pris... on m'en a donné
mais,
que
mais
deux.
Mais pourquoi vous dites moins efficace, Marielle? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? C'est ça que j'arrive pas à saisir.
Inefficace, c'est parce que j'ai vu que elle traîne son derrière...
D'accord.
Sans arrêt, voilà.
Alors, c'est pas parce qu'elle se traîne. On a l'habitude de voir les chiens parfois traîner leur... en fait, ils sont en position assise et ils s'essuient les fesses, tout simplement.
Elle n'arrête pas de faire ça. Elle n'arrête pas de se traîner les fesses par terre.
Alors, ça peut être aussi un engorgement, tout simplement, de ces glandes anales, qui sont deux petites glandes. Excusez-moi, parce que c'est samedi matin, je vois Gaspard qui fait des grands yeux en disant mais où elle nous emmène? Ce sont deux...
Justement, il l'a fait. Il les a vidées, les glandes. Il l'a fait, en plus.
Alors, ça peut vraiment être ça, le problème, et le fait que votre animal se traîne, que votre chienne se traîne comme ça sur ses fesses arrière, parce que l'action mécanique, en se frottant par terre, l'aide à vider ses glandes anales. Donc ça, c'est vraiment important de le faire contrôler régulièrement par le vétérinaire. Pour revenir au vermifuge, cet acte en fait de se frotter les fesses sur le sol ne veut pas forcément dire que votre animal est porteur de vers. Ce qui est important, c'est de le vermifuger régulièrement, plusieurs fois dans l'année, avec des produits qualitatifs que votre vétérinaire va pouvoir vous prescrire. Donc ça, c'est vraiment le premier conseil que je peux vous donner, Marielle. Et puis, deuxième conseil, parce que tout à l'heure, vous disiez, elle se mord beaucoup le bout des pattes.
Mais aussi le derrière, elle a... Dans la nuit et tout, elle n'arrête pas de se ronger le derrière.
Alors, voilà. Le derrière, je pense que vraiment il y a un lien avec ses glandes anales. Peut-être oui. A-t-elle une difficulté à ce niveau-là? Vous devriez la montrer à nouveau à votre vétérinaire, parce que lui seul, en l'examinant, va pouvoir établir le diagnostic. En ce qui concerne le fait qu'elle se ronge les pattes, c'est souvent un signe de stress. Alors, il faut trouver l'origine du stress. Ça peut être l'ennui, ça peut être lié à des choses qui ont changé dans son environnement. Donc, essayez de la distraire avec des jeux, avec des choses qui vont lui faire penser à autre chose et éviter qu'elle vienne se mutiler le bout des pattes.
Oui, mais elle a un cancer, la pauvre. Alors, je la masse parfois, je lui masse le ventre quand je la frotte.
Alors, vous voyez ce que vous expliquez, Marielle. Voilà. Finalement, on arrive au fur et à mesure de la conversation à mieux comprendre la situation. Si elle souffre d'un cancer, elle a vraisemblablement aussi des douleurs. Les douleurs génèrent du stress et c'est certainement pour ça qu'elle se ronge le bout des pattes. Là encore, votre vétérinaire est vraiment votre meilleur allié parce que c'est lui qui va vous aider à la soulager dans ses douleurs, peut-être à lui donner des médicaments doux, anti-stress, qui vont l'accompagner et l'aider. Vous pouvez aussi avoir recours à des séances d'acupuncture, c'est très efficace dans ce cas de figure chez les animaux. Voilà Marielle, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent week-end.
Si comme Marielle, vous voulez poser vos questions.
Merci Marielle.
À Natacha Rio et ses invités, n'hésitez pas, 0826 300 300.
Allez, tout de suite, notre séquence à l'état sauvage.
Sud Radio, vos animaux à l'état sauvage.
Et j'ai le plaisir de recevoir un habitué de cette émission, c'est Pierre Rigaud. Pierre, bonjour.
Bonjour Natacha.
Vous êtes naturaliste, grand spécialiste de la faune sauvage, notamment de la faune sauvage française. Vous allez nous parler d'un animal que l'on connaît assez peu, dont on parle parfois parce qu'on l'aperçoit ou on croit l'apercevoir. Il est très discret, il s'agit du chat sauvage.
Le chat sauvage ou le chat forestier, c'est le même. Et alors, il y a plein de confusions entre, par exemple, les chats sauvages ou chats forestiers, qui sont une espèce ou une sous-espèce, peu importe comment les scientifiques spécialistes de la génétique les considèrent, mais en tout cas, qui sont bien différents des chats domestiques errants. Et donc, souvent, on pense avoir aperçu un chat dit sauvage dans la nature, en lisière de la forêt, à la campagne, alors qu'il ne s'agit le plus souvent que de chats domestiques qui prennent un peu leurs aises loin des habitations.
En réalité, il n'a pas tout à fait le même gabarit quand même, le chat forestier, par rapport à nos chats domestiques.
C'est un bon gros matou, mais ils ne sont pas non plus gigantesques. Ce qui fait qu'en moyenne, finalement, les chats forestiers et les chats sauvages ne sont pas plus grands, finalement, que des chats domestiques. De bon gabarit, 3-4 kilos pour une femelle, 5 pour un mâle.
Oui, donc effectivement, c'est à peu près le gabarit d'un chat classique.
Oui, alors ça fait partie justement des difficultés ou parfois des idées reçues qu'on a par rapport aux chats forestiers, parce que effectivement, historiquement, c'était un petit peu les fauves à éradiquer. Bon, on a les fauves qu'on peut, donc dans les campagnes, c'était les chats sauvages. Et en plus, sur le plan du pelage, sur le plan morphologique, ils ne sont pas toujours faciles à distinguer.
À quoi ressemble-t-il ?
Alors, un chat de couleur globalement gris, brun, tirant un peu sur le fauve, un petit peu passe-partout en fait, très légèrement moucheté ou tigré, mais très peu. Une queue qui est épaisse, c'est un critère important qui est là, pour le coup, assez facile à voir, avec un manchon noir au bout.
Une queue longue, une queue courte ?
Une queue relativement de taille moyenne pour un chat, je dirais. surtout épaisse, ce qui est rarement le cas, en fait, chez la plupart des chats qu'on aperçoit avec un pelage qui peut ressembler au chat forestier. Et cette queue avec un manchon noir au bout chez le chat forestier, elle a aussi 3-4 anneaux noirs vers l'extrémité. Et puis, il y a un critère qui est la ligne noire sur le dos, qui court tout le long du dos, qui fait que quand on a tous ces critères réunis et qu'on est bien sûr qu'au moins on peut exclure la plupart des chats domestiques, disons, eh bien là on est à 99% d'être certain qu'il s'agit d'un chat forestier. Et en plus, si on veut vraiment totalement certain, il faut faire une analyse génétique.
Oui, alors ça va être compliqué. On l'aperçoit dans quelle région en France, ce chat forestier ?
Alors autrefois c'était partout, maintenant c'est essentiellement dans un grand quart nord-est, dans le centre du pays, le massif central, les Pyrénées, puis un petit peu les Pyrénées qui s'étendent vers les plaines du sud-ouest. Donc ça fait une grande diagonale, disons nord-est-sud-ouest, comme ça. Et peut-être que dans les années ou décennies à venir, ça va s'étendre, puisque la bonne nouvelle...
Vous êtes optimiste, c'est bien ce matin, enfin une bonne nouvelle.
Il faut l'être. Et oui, moi ça fait franchement partie des choses qui me réjouissent, c'est-à-dire ces animaux autrefois étaient très communs partout, dans toutes les campagnes et les forêts européennes. Au fil des siècles et jusqu'au début du XXe siècle, ils ont été vraiment éradiqués parce que c'était considéré comme des nuisibles, des animaux dangereux. On avait peur d'un malheureux chat de 5 kilos. Alors qu'en fait, il n'y avait vraiment aucun problème de cohabitation. Autant, bien sûr, ça peut exister avec des animaux plus grands, mais alors avec les chats, franchement. Mais il y avait comme ça une croyance selon laquelle il fallait éliminer ces dangereux nuisibles. Et donc, ils ont été éradiqués presque partout. Et la chose très positive, et que je trouve très belle d'ailleurs, c'est qu'à partir du moment où, en France comme dans d'autres pays, l'espèce a été classée protégée dans les années 70. À partir de là, il a fallu rien faire de spécial, pas d'opération compliquée, de réintroduction, etc. Juste, on arrête de les piéger, de les tuer au fusil. Et là, peu à peu, ces populations de chats sauvages, chats forestiers, sont revenues. Et donc, il restait quelques secteurs, en France et en Europe en particulier, qui se sont étendus comme ça. Et donc, l'air
de... Naturellement.
Naturellement, juste parce qu'on arrêtait de les persécuter. Et donc, ces chats, peu à peu, regagnent du terrain, si bien que... Maintenant, les populations, par exemple du Massif central et du nord-est de la France, commencent à être connectées entre elles. Et on peut espérer
que... C'est aussi une bonne nouvelle pour le brassage génétique, justement, que des populations comme ça qui étaient dispersées arrivent finalement à communiquer.
Absolument. Et bientôt, ça va être pareil entre des populations pyrénéennes qui sont elles-mêmes reliées aux populations ibériques, qui sont en train de se reconnecter avec les populations du Massif central. Donc peut-être que bientôt, dans le nord-ouest de la France et dans le sud-est, on aura à nouveau des chats sauvages.
Ce chat sauvage, c'est pas sa période de reproduction là en ce moment ?
Et si, enfin c'est
l'hiver. C'est pour ça qu'on en parle aussi.
C'est l'actualité du chat forestier. C'est qu'en effet, janvier, février, encore un petit peu mars, c'est la période du rut. Et puis, alors ça s'étale par contre. Ils n'ont pas, contrairement à d'autres espèces, une période vraiment hyper définie. Mais enfin, c'est globalement la fin de l'hiver et puis le début du printemps, qui est cette période de reproduction. Alors qui se passe à l'écart des yeux des naturalistes ou des observateurs, parce que ce sont des animaux vraiment très farouches, très discrets, ce qui est en fait l'héritage de l'époque où ils étaient persécutés, c'est pour ça qu'on les voit rarement. Donc leurs amours se passent en sous-bois, on ne voit pas trop, puis en ce moment, les femelles sont en train de chercher des endroits où elles mettront bas. Et qui peuvent être
ça veut dire qu'elles n'ont qu'une seule portée par an ?
Oui.
Contrairement au chat domestique qui peut avoir plusieurs portées dans une année.
Exact, exceptionnellement deux portées, mais en général c'est une seule par an, du moins de ce qu'on en sait, parce qu'en fait ils sont tellement difficiles à observer. Alors il y a eu bien sûr quelques études qui ont été faites par radiopistage, on installait des émetteurs sur certains chats pour les suivre, donc on connaît un petit peu leur façon de se déplacer, mais il y a encore pas mal de mystères dans la vie de ces chats. Mais ce qu'on sait, c'est que les portées naissent dans des endroits évidemment très, encore plus discrets que le reste du temps que passent les chats dans la nature, c'est-à-dire sous une souche. Alors on pense souvent que les chats forestiers grimpent, passent beaucoup de temps dans les arbres. C'est vrai, ils grimpent, mais finalement, c'est un peu comme nos chats domestiques. Quelque part, ils sont quand même pas si à l'aise que ça en évoluant dans les branches. Ils savent monter, bon, ils savent descendre, bien sûr. On ne va pas chercher, on n'appelle pas les pompiers pour sauver un chat coincé, un chat forestier.
J'imagine.
Coincé en haut d'un arbre. Mais en fait, ils passent quand même beaucoup de temps au sol. Et d'où l'intérêt d'ailleurs.
Toujours en sous-bois.
En sous-bois ou dans les campagnes, dans les milieux un petit peu plus ouverts. Mais en fait, c'est quand même là qu'ils ont le plus de tranquillité, dans des recoins plutôt isolés, en effet. Et d'où l'importance d'ailleurs d'avoir des forêts qui soient assez riches, avec beaucoup d'arbres morts qui restent au sol, des anfractuosités, des éléments un petit peu naturels où ils peuvent se réfugier.
Pourquoi a-t-on autant traqué ce chat forestier pendant des années ? En quoi est-il en compétition avec l'homme ? Il se nourrit de quoi ?
Ah, il se nourrit essentiellement de micro-mammifères, des petits campagnols.
Donc c'est plutôt pas mal, non ?
Bah, c'est une aide pour les agriculteurs, très clairement. Mais vous savez, ça fait partie de toutes ces croyances, de tous ces animaux qui étaient considérés nuisibles. Certains le sont encore. Les renards, finalement, c'est la même chose. Les renards, aujourd'hui, sont encore classés nuisibles. Les chats forestiers ont la chance d'être classés protégés. Les martres, les fouines sont encore classés nuisibles. C'est pareil, ça fait partie de tout ce qu'on appelait la sauvagine. Tous ces animaux, simplement, qu'on n'aimait pas parce que ce sont des prédateurs naturels et qu'on estimait que soit ils étaient dangereux, soit ils portaient concurrence aux humains. Mais concrètement, il n'y a aucune difficulté de cohabitation avec des chats forestiers.
Comment peut-on les observer si on a envie de se lancer sur la piste du chat forestier ? Bon, on a bien compris que c'était compliqué.
Mais ça peut quand même arriver. On s'arme de patience, en fait. Et l'idéal, c'est de faire des affûts. Alors, moi, ce que j'appelle un affût, ce n'est pas très compliqué. Personnellement, je m'assois sans aucun camouflage en lisière de forêt en fin d'après-midi. On attend que le soir vienne. Et là, en général, les chats forestiers adorent aller chasser sur les prairies, parce qu'il y a beaucoup de campagnols. Donc, ils font comme votre chat dans le jardin ou ailleurs, ils se mettent à l'affût, ces chats-là, en passant du temps comme ça, à attendre que le campagnol sorte de son trou. Donc nous, on se pose à distance, à l'écart, on observe les lisières forestières, ça marche très bien dans le Jura, par exemple.
Faut être loin quand même, j'imagine.
Faut mieux être loin, parce qu'évidemment, si le chat vous voit en général...
Donc une bonne paire de jumelles, un peu de patience, un petit café chaud et...
Un petit café chaud, il faut mieux pas faire de bruit ni bouger, comme pour tous les affûts, mais si vous êtes à distance... Alors souvent ça marche pas, mais franchement on peut faire de magnifiques observations simplement en étant assis tranquillement au coin du bois, quoi.
Eh bien, merci infiniment Pierre Rigaud, vous nous avez embarqué avec vous, là on s'y voyait déjà, la lisière des bois, en train de chercher ce chat forestier. Allez, j'en profite, je vais me faire une petite auto-promotion, je viens de lancer un média sur Instagram qui s'appelle Pets and Wild, l'occasion d'apprendre plein de choses sur les animaux. Pierre, je vous conseille de vous abonner parce que j'ai vu que c'était pas encore fait.
Je vais le faire de ce pas.
Allez, courte pause, on se retrouve juste après.
Animalis, le magasin des animaux à vivre et à aimer. Retrouvez-nous aussi sur animalis.com. Animalis présente.
Vos animaux sur Sud Radio, c'est votre histoire.
Et dans C'est votre histoire, ce matin, dans Vos animaux, nous avons souhaité mettre un coup de projecteur sur l'adoption des animaux de compagnie, parce que notre partenaire Animalis organise plusieurs fois dans l'année des week-ends d'adoption, et c'est le cas ce week-end. Pour nous en parler, la coordinatrice de ces week-ends, Christine Hiss. Bonjour Christine.
Bonjour Natacha, bonjour.
Alors,
à tous les auditeurs.
C'est le branle-bas de combat chez Animalis pour justement... donner de la place à des associations qui proposent des animaux à l'adoption. Bon, j'espère que le coronavirus va pas trop vous embêter pour ça. Combien de magasins sont-ils impliqués dans ces week-ends d'adoption, Christine ?
Alors, en règle générale, on arrive à mobiliser l'ensemble des magasins, c'est-à-dire les 39 magasins de l'enseigne. Donc, c'est vrai que ce week-end, c'est un petit peu particulier parce que malheureusement, il y a certains magasins qui ont dû, notamment, c'est le cas
dans l'Oise, oui.
Malheureusement, effectivement, remettre en question ce beau week-end avec l'association qui était pressentie pour cela. Mais en dehors de, bien sûr, de ces week-ends, entre guillemets, un peu exceptionnels, entre guillemets, si on doit appeler ça comme ça, en général, on arrive à mobiliser, j'irais, les trois quarts des magasins sont, sont au taquet pour pouvoir proposer les week-ends d'adoption à l'échelon national, mais ils le font aussi en dehors de ces week-ends nationaux, j'entends.
C'est quoi, Christine, le principe de ces week-ends d'adoption ? Expliquez-nous.
Alors, le principe du week-end national d'adoption, c'est de mobiliser l'ensemble de l'enseigne, effectivement, sur gérer à la fois l'adoption, mais aussi permettre à des associations aussi de pouvoir proposer des collectes, hein, aussi, de pouvoir permettre à des clients généreux de pouvoir donner à cette occasion-là, et aussi proposer leurs services. Les clients peuvent tout à fait aussi, pourquoi pas, se proposer en tant que famille d'accueil, ou aussi pouvoir à leur tour être bénévole. Donc c'est à plusieurs, il y a plusieurs possibilités.
Plusieurs leviers possibles. Et puis bien sûr, il y a des animaux qui sont présentés à l'adoption.
Tout à fait. Il y a aussi des, lorsque l'association, parce qu'on laisse aussi l'association ou le refuge libre à ce niveau-là, ils peuvent venir tout à fait avec les petits, leurs petits protégés à l'adoption, que ce soit chien, chat ou nac. Donc, alors, il y a plusieurs possibilités.
Avant de donner la parole au refuge de Plume, qui justement participe à ce week-end d'adoption, puisque voilà, ce refuge va être présent dans le magasin animaliste de Brive, quels conseils pouvez-vous donner, Christine Hiss, au particuliers qui nous écoutent ce matin et qui souhaiteraient adopter? Comment on s'y prend pour faire en sorte que l'adoption soit réussie?
Alors déjà, première chose, effectivement, on est très vigilant là-dessus, et quand je dis on associe aussi bien sûr les équipes animalistes et les refuges qui sont aussi dans cette démarche, c'est-à-dire une adoption respectueuse et responsable, c'est-à-dire qu'un animal c'est pas qu'une simple envie, c'est pour la vie. Et là-dessus, c'est une des conditions sine qua non pour nous au niveau d'animalistes, c'est-à-dire que on veille à ce que l'association fasse également une pré- et post-visite. Donc ça, c'est la première chose, parce qu'effectivement, on a tous envie de faire une bonne action, et comme je dis toujours, l'adoption n'est pas forcément pour tout le monde, parce qu'on sait qu'il y a des chatons, mais il y a aussi des chats adultes, des animaux adultes qui ont eu des fois un parcours que l'on ne connaît pas forcément, hein, qu'on a récupéré à cette occasion, l'association a récupéré, et il faut aussi savoir que il y a des fois un moment d'adaptation qu'il faut respecter et permettre à l'animal. On sait qu'en général, ça peut prendre 3 semaines, ça peut prendre un peu plus de temps.
Donc finalement, ce que vous nous expliquez, Christine Hiss, c'est que toutes les associations qui participent et les magasins animalistes qui participent à ces grands week-ends d'adoption accompagnent les adoptants dans leur démarche, les conseils, font en sorte que ça se passe bien, mais vraiment sur la durée. Merci Christine pour toutes ces explications.
Merci Natacha et merci à tous, et surtout bon week-end à tous.
Bon week-end d'adoption. On va donner la parole à Lydia Gonzalez. Bonjour Lydia.
Bonjour.
Lydia, vous représentez donc une association qui participe à ce week-end adoption. Vous allez être présente dans le magasin animaliste de Brive. Votre association s'appelle le Refuge de Plume, c'est bien ça?
Tout à fait. Le Refuge de Plume. Pourquoi le Refuge de Plume? Parce que mon premier sauvetage, c'est un petit chaton. Et puis ça, je l'ai nommé Plume et je me suis beaucoup bagarrée pour lui. Et en hommage à lui, j'ai donné le nom de cette association. Et puis à travers lui, j'ai dit, si j'ai sauvé Plume, je peux en sauver d'autres. Et l'aventure a démarré à partir de là.
Alors votre refuge, le refuge de Plume, s'intéresse aux chats, uniquement aux chats. Vous ne proposez que des chats à l'adoption.
Oui, tout à fait. Parce que je pense que pour s'occuper vraiment d'une espèce, ils vont vraiment se contenter que d'une espèce. Pour moi, c'est les chats, parce que j'ai... c'est une passion, j'ai toujours été attirée par le monde félin, et donc pour m'en occuper au mieux, il faut se concentrer uniquement sur eux et pas trop se disperser sur d'autres espèces. Et puis en même temps, il faut avoir les moyens humains, matériels.
Alors justement, comment vous fonctionnez, Lydia? Est-ce que vous travaillez par exemple avec des familles d'accueil pour recevoir, pour accueillir les chats que vous présentez ensuite à l'adoption?
Oui.
Ou est-ce que vous avez un refuge physique où on peut venir vous voir?
Oui, les deux.
Oh ben c'est formidable, vous êtes une chanceuse, parce que beaucoup d'adoptions n'ont pas cette possibilité. Beaucoup d'associations, pardon.
Disons que oui, je travaille avec des familles d'accueil. C'est essentiel déjà, parce que quand un chat arrive, la famille d'accueil me sert un petit peu aussi de quarantaine. Parce que là, moi, c'est un refuge familial, donc il y a deux espaces qu'on a aménagés, à peu près de 50 mètres carrés, et deux espaces extérieurs de 18 mètres carrés. Donc tout est aménagé, mais ma capacité d'accueil, bon, ben, à un moment donné, je peux pas. En général, moi, je reçois à la maison, puisque c'est une maison en refuge familial. Les chats, ils sont déjà testés, identifiés pour la plupart. Et surtout vaccinés, rappel compris et opérés. Donc, les familles d'accueil, ben, justement, elles servent un peu à ça. C'est un petit peu mon sas. Parce que les trois quarts des visites, elles se font chez moi. Donc, quand les chats arrivent chez moi, il faut qu'ils soient prêts.
Oui. Et comment ça se passe quand une famille se présente, ou une personne seule d'ailleurs, pour adopter qu'est-ce que vous leur demandez pour comprendre leurs attentes, pour les accompagner dans cette démarche d'adoption?
Tout simplement, on fait connaissance de leur mode de vie. Voilà, s'ils habitent en appartement, maison, leur temps d'absence dans la journée, s'ils ont des animaux, des enfants. Parce que à travers cet échange, moi, ça me permet de cibler un tel ou tel chat qui correspondrait mieux à leurs attentes pour éviter justement de traumatiser le chat s'il doit revenir 3-4 jours
sûr.
Après.
Combien
après,
de
on
jeux...
a la sécurité de la période d'adaptation que je module en fonction du chat.
Bien sûr. Combien de jolis minous allez-vous proposer à l'adoption ce week-end dans le magasin Animalis de Brive?
4.
Vous pouvez nous en présenter un rapidement avant qu'on se quitte?
Alors, je vous présente Petit Nemo. C'est un petit rouquin. Il est trop rigolo. Il a une petite queue cassée. Pareil, ça a été un chaton qui a été trouvé errant avec sa petite sœur dans les petites rues de campagne, parce que nous, en Corrèze, voilà, c'est rural. Donc, il était atteint de coryza, même une suspicion typhus, on a eu très peur de le perdre. Bon, ben là, c'est un beau chaton de 8-9 mois. Il est super affectueux.
Super.
Bah ouais, super affectueux. Il est vraiment d'une reconnaissance extraordinaire. Après, j'ai Bambou. Donc, Bambou, c'est différent parce que je m'occupe aussi des cas de maltraitance.
Oui.
Ça, je m'en occupe personnellement. Je le prends en charge de A à Z, je le reconstruis. Et Bambou, pour son histoire, on l'a fait tournoyer par la queue.
Oh là là, mon Dieu.
Donc la queue s'est brisée, elle s'est nécrosée, on a trouvé un chat, voilà, avec une queue pendante.
Lydia, donc, on ne va pas pouvoir présenter vos quatre petits chats après, qui seront aujourd'hui dans le magasin Animalis de Brive, mais merci pour cette présentation. Bon week-end à adoption. On espère que vos quatre protégés trouveront une nouvelle famille et seront très heureux. Merci à vous, très chers auditeurs de Sud Radio. Et merci à tous ceux qui viennent déjà de s'inscrire sur Pets and Wild. Vous êtes formidables. Allez, je vous embrasse. Bon week-end.